Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonjour à toutes et à tous. Non, c'est pas une erreur. Hein. Il est bien 17h et une minute. Hein. On a avancé exceptionnellement en cause, naturellement, le match de foot entre la France et la Belgique, hein, qu'on va vous faire vivre dans moins d'une heure, maintenant à partir de 18h. Donc, on a exceptionnellement avancé notre émission, donc Mon Paris Sport, une émission réduite à une heure où, naturellement, eh bien, on va servir un petit peu d'avant-match. On va revenir sur tous les événements forts hein, de ce début de l'Euro, cette fin des phases de poule et puis une grosse partie donc des 8e de finale. On aura aussi naturellement une page olympique et puis ensuite donc n'oubliez pas avec donc Eladji et Darius le commentaire du match France-Belgique à partir de 18h et après donc l'après-match avec Malik. Alors en principe à partir de 20h sauf s'il y aura quelques prolongations. Je vais saluer donc Alexandre, ça va ? Alexandre, bonne forme.
Salut Philippe, bonjour
t'as
à tous.
T'as beaucoup travaillé, hein. C'est un beau week-end de sport. Hein.
Bon week-end de sport, ouais, comme d'habitude.
Hein. Donc, naturellement, tu nous parleras de foot, hein, et puis aussi de tout ce qui s'est passé en matière d'événements sportifs. Et puis, dans 3 km, c'est l'arrivée de la troisième étape sur la route du Tour de France. Donc, tu c'est pourras ça, également, donc, dans ton journal des sports, rajouter donc, l'étape du jour qui va vraisemblablement se finir au sprint. Bonjour Vanessa, ça va ?
Très bien, Philippe, ouais, très bien. Bon.
L'actualité olympique va bien ?
Bien également.
Ok, très bien. Et puis je vais saluer notre ami qui arrive aussi pour le foot. Bonsoir.
Bonjour.
Ça va bien
tout le monde.
Ouais,
ça
ouais.
Va et vous.
Ouais, bonsoir. On avance un tout petit peu le bonsoir. Ouais. Ça va. Pleine forme.
Ouais, ça va, ça va.
J'ai vu que t'as mis le maillot de l'équipe de France.
Je l'ai mis, bon, comme ça, ouais. On ne sait jamais. Hein.
Très
ça
bien,
peut servir.
Allez, on va en parler tout à l'heure. On va commencer avec l'actu donc, olympique. Alors, Vanessa, la semaine dernière, c'était donc la journée olympique, on en avait parlé. Quoi de neuf cette semaine pour donc, les Jeux olympiques ? On va rappeler qu'on est à J-25 aujourd'hui. Hein.
Tout à fait.
Oui. Alors, quoi
et
de neuf ?
Moi, je voulais revenir surtout sur la semaine dernière avec cette sculpture olympique d'Alison Sarr.
Compléter ce qu'on a dit la semaine dernière.
Exactement, voilà. Exactement. Donc, cette sculpture qui représente donc une femme noire assise sur un rocher, tenant une flamme dorée d'une main et un bouquet de rameaux d'olivier de l'autre, donc aussi avec ce symbole de la paix, bien sûr. Elle est entourée de 6 sièges et chacun représente une culture du monde. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est l'aspect multiculturel de cette œuvre qu'on retrouve matériellement. On peut voir donc différents tabourets venant de France, de Chine, d'Europe, une chaise d'enfant taillée à la main d'Amérique centrale et un siège à palabres d'Afrique de l'Ouest. Il y a bien sûr ce lien avec les Jeux Olympiques, avec un siège ancestral symbolisant l'origine des Jeux Olympiques dans la Grèce antique. Et autre lien avec les Jeux, donc dans cette œuvre d'art, les anneaux olympiques au centre donc de l'œuvre, sur le sol incrusté.
Mmh. Et on va rappeler que c'est Thomas Barr hein, qui a été qui a inauguré donc cette sculpture olympique. On avait parlé
la maire du 8e arrondissement Jeanne Dotzer, ouais. Et puis l'adjointe à la maire de Paris, ouais. Karine Roland, en charge de la culture et de la ville du quart d'heure. Mm-hmm. Je voulais revenir un petit peu donc sur cette œuvre parce qu'il y a 6 sièges vides en fait qui entourent l'œuvre et il y a cette idée qu'il y a toujours une place libre pour chacun. Pour que chacun puisse rentrer et dialoguer. Et justement, cette invitation au dialogue, c'est ce que Thomas Barr a souligné. Il a souligné donc cette invitation à l'échange, à la rencontre, au partage. Et c'est un point névralgique aussi des Jeux Olympiques. Il a vraiment salué l'œuvre d'Alison Sarr en lui disant que sa sculpture était une illustration, excusez-moi, fantastique de ce qui se passe aux Jeux Olympiques, avec 206 quand même, hein, comités nationaux olympiques qui seront présents et le comité olympique des réfugiés qui viendront ensemble dans une compétition pacifique fièrement s'affronter pour les plus grands honneurs. Et puis voilà, évidemment, c'est l'essence des Jeux Olympiques et la raison d'être, le dialogue des Jeux Olympiques.
Oui, voilà, c'est le but. Je crois que tu as une interview de Karine Roland.
Oui, oui, tout à fait. Ouais. Et juste avant, je voulais souligner que cette œuvre a été faite, excusez-moi, a été faite à partir de matériaux résistants aux intempéries. Donc, elle est en bronze et en roche volcanique. Et puis, elle est donc résistante aux intempéries et aux polluants environnementaux. C'est une sculpture qui a été fabriquée entièrement en France, à partir de matériaux locaux et produite essentiellement par des artisans français dans les ateliers du Puy-de-Dôme en Auvergne-Rhône-Alpes. Mmh. Voilà, et puis on va écouter...
Alors, comme quoi d'abord, avant d'écouter oui. Karine Roland, la culture et le sport font bon ménage.
Exactement. Et justement, on a voulu aller un petit peu plus loin, et puis on lui a parlé de l'Olympiade culturelle, on va l'écouter.
D'accord. Allez, Karine Roland.
Ensemble de manifestations, d'événements, nous en sommes à 500 d'ores et déjà, qui permettent de faire dialoguer art et sport. Nous confions aux artistes, aux sportifs, le soin d'échanger entre eux, afin de proposer des œuvres d'art comme aujourd'hui, des événements participatifs. Il y en avait à l'occasion de la fête de la musique au Châtelet, sur la place de l'Hôtel de Ville. Donc l'Olympiade culturelle, c'est ce moment où les valeurs de l'olympisme sont aussi portées par les artistes dans le dialogue entre art et sport. Et puis l'Olympiade culturelle à Paris, nous l'avons voulu la plus populaire et fédératrice possible. Ce qui veut dire que des habitants participent à nombre d'événements, des élèves de conduit conservatoire étaient mobilisés lors de la fête de la musique, des artistes sont allés en résidence dans des collèges. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les habitantes et habitants de Paris se mobilisent ensemble, regardent vers l'avenir à l'occasion de ces Jeux olympiques et paralympiques, on l'espère, avec le plus d'esprit de partage possible.
Et ma dernière question, c'est quel message adresseriez-vous aux jeunes artistes, aux jeunes sportifs qui se lancent dans leur carrière?
Je leur dirais de continuer d'ouvrir grand les yeux, grand les sens pour les artistes. Nous avons besoin de leur créativité. Pour les sportifs, nous avons besoin de leur opiniâtreté, de leur force d'esprit. La force n'est pas seulement une question de physique et une question de corps. Et je leur dirais surtout à continuer de vous intéresser les uns aux autres.
Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview.
Merci beaucoup. Merci.
Voilà, donc pour l'interview, on en est où maintenant pour la suite donc, de cette semaine olympique avec les Agitos notamment?
Oui, les Agitos qui ont été inaugurés vendredi matin, en présence notamment de Tony Stanguet, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. Donc ces Agitos, on peut les voir sur l'Arc de Triomphe, d'ailleurs j'y étais hier, j'ai été les voir parce que ça m'intéressait. On peut les voir sur l'Arc de Triomphe depuis l'avenue des Champs-Élysées. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire agitos,
non, pas
Philippe?
Du tout.
Eh ben, ça veut dire je bouge en latin.
Ah, d'accord. Voilà. Okay.
Donc les agitos, pour vous dire à quoi ça ressemble, c'est 3 virgules donc aux couleurs olympiques, rouge, bleu et vert. Et ce qui est quand même assez nouveau, c'est qu'avant ça n'avait jamais été affiché en même temps que les anneaux olympiques. Mm-hmm. Puisqu'on le rappelle, hein, les anneaux olympiques sont sur la tour Eiffel. Et puis, cet assemblage, justement, a été réalisé par ArcelorMittal, hein, qui ont également réalisé la torche olympique. Il mesure 12 mètres de large sur 9 mètres de haut, trônant à 44 mètres du sol. Et chaque agitos, il y en a trois, font 1,5 tonne et demie chacun. Et ils surplombent l'avenue des Champs-Élysées. Et les Champs-Élysées, qui seront d'ailleurs le lieu pour la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Mmh. Il y a cette année, c'est la première fois qu'il y a une unité entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Et c'est justement en ce sens que les agitos sont là, a déclaré Tony Stanguet, évidemment, le président du COJO. Et puis, ces agitos, ils seront illuminés la nuit. Et ce sera la première fois qu'on aura une si belle mise en valeur des agitos, de ce symbole du paralympisme et des valeurs qui vont avec, a ajouté la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. C'est aussi un peu une invitation à aller prendre des billets pour les Jeux paralympiques, puisqu'il en reste.
Oui,
donc
largement.
N'hésitez pas, allez-y, il y en a à partir de 15 euros. C'est important qu'on mette en valeur les Jeux paralympiques. Il faut y aller, ce sera vraiment très bien.
Oui, et puis on les suivra sur mon Paris FM. Maintenant, des nouvelles de la Flamme,
elle
continue son parcours.
Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait la Flamme la semaine dernière? On était parti, je vous avais laissé, elle était à Chamonix, ouais. Et puis elle est partie dans le Doubs. Elle a rejoint Besançon avec ses fortifications qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est passée par la maison de Victor Hugo, le musée du temps. Et puis elle a été portée par Michel Chapuis, 83 ans, qui a été médaillé d'argent au JO à Tokyo en 1964 en canoë biplace. Et justement, cette flamme, elle a aussi fait la tyrolienne et puis elle a longé la rivière.
Oui.
Il y avait 113 relayeurs et puis c'est Sébastien Loeb, 9 fois champion du monde des rallyes, qui était présent. Et Quentin Fillon-Maillet. Et c'est Sébastien Loeb qui a allumé la flamme. Il y avait aussi également Jean-Pierre Mougin qui était là.
Le président du Fair Play. Hein.
Exactement.
Et puis j'avais deux confrères qu'il faut saluer. Je sais qu'ils sont sur la route du tour. C'est Alexandre Pasteur et puis Christophe Paco. Voilà.
Et puis, excusez-moi, c'est Anaïs Bescon qui a allumé la flamme. Elle est partie aussi en Alsace, entre Mulhouse et Strasbourg, en passant par Colmar. Colmar qu'on appelle la petite Venise, du fait de ses rues pavées, de ses canaux et fleuries. Elle a marré à Colmar et puis après elle est arrivée à Strasbourg pour l'étape finale, la plus européenne des villes françaises. Elle est passée devant le Conseil des droits de l'homme, le Conseil de l'Europe, puisque on sait que c'est là où il y a les plus grandes institutions européennes, à Strasbourg. Et puis c'est Arsène Wenger, figurez-vous, qui a allumé le chaudron.
Ah, c'est bien.
Voilà, je ne le présente pas. après elle est partie en Moselle et puis elle a fini sa course à Metz, avec le tennis de table à l'honneur. Et puis, c'est Alison Pinault qui a assuré le dernier relais. Médaillée d'or au dernier jeu, elle a été sacrée championne du monde en 2017, championne d'Europe en 2018. Et puis, évidemment, Metz est un symbole fort pour elle, puisqu'elle a évolué sous les couleurs messines de 2009 à 2012.
Voilà, et puis pour faire le lien avec le foot, il y avait aussi Sylvain Kastendush. C'est terminé pour la flamme
Juste qu'elle est passée en Haute-Marne, dans la Meuse, et puis dans la Marne et dans la Haute-Marne.
Très bien, ok, merci pour cette page olympique. Ça a permis à notre ami Stéphane d'arriver sur le plateau. Bonsoir Stéphane,
bonsoir.
Ça va
bon,
ça va bien.
Ouais,
bon,
très bien,
on va
bien.
Parler de l'Euro maintenant. Et puis ensuite, on aura un journal de Omnisport avec Alexandre. Bon, ce match, France-Belgique, comment vous êtes? Dans quel état d'esprit, Amadou?
Un peu mitigé, on est un peu quand même toujours dans la réflexion. Bon, après, je pense quand même que la France est légèrement mieux que la Belgique. La Belgique n'est pas dans un super état non plus comme la France, mais bon.
Oui. Il paraît qu'ils ont du mal à marquer. Hein.
Ouais, ils ont du mal à marquer. Ils marquent tout le temps en hors-jeu, quoi. Ouais. Donc, je pense que la France mettra plus de buts que la Belgique, peut-être aujourd'hui.
Oui, alors, on connaît, Alexandre, la composition depuis quelques minutes de cette équipe de France.
Absolument. De l'équipe de France, c'est l'équipe de Belgique, donc je vais commencer par celle des Diables Rouges.
Allez, commence les Diables Rouges.
Forcément, laisser un peu de suspense.
On va être fair play.
Donc, au but, on aura Castels. Ensuite, on aura Théâtre, Vertonghen, Fess et Castagne en défense. De Bruyne, Onana, Carrasco au milieu de terrain. Et pour finir, Openda, Lukaku, Doku en attaque.
Donc, c'est très offensif.
Ultra offensive. Donc il y a de quoi peut-être avoir un petit peu peur,
je pense qu'il y aura du spectacle, moi.
Voilà. Tant mieux. Stéphane, cette équipe hyper offensive belge,
tant mieux pour le spectacle. Non, je pense que c'est le genre d'équipe qui va espérons qu'ils vont attaquer, parce qu'après mettre des noms sur un papier c'est une chose, mais après il faut voir dans quel
on le voit nous
non, par exemple Carrasco, le premier match il jouait limite défenseur latéral, moi ça m'inspire pas grand chose, au contraire, même, je veux dire, faut du jeu. Si on aura, comme on a un peu de mal à marquer, on peut avoir peut-être un peu plus de mal contre des, on aurait pu avoir peut-être un peu plus de mal contre des blocs bas quand faut faire le jeu et tout, si cette composition d'équipe, ça veut dire que les Belges sont prêts à prendre le jeu, à attaquer, à mettre la pression sur l'équipe de France, c'est peut-être plutôt...
Il y aura des espaces, c'est sûr.
Tant mieux. Et donc l'équipe de France qui va jouer en losange.
Équipe de France, 4-4 de losange qu'on avait annoncé cette semaine. Donc ce sera Mac Maignan au but. Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez.
Il n'y a pas de changement.
Un milieu de terrain Kanté, Tchouaméni, Rabiot. Donc Tchouaméni qui s'incruste au milieu de terrain. Et Griezmann, donc, qui sera là en losange, donc en numéro 10. Ouais. Et avec Marcus Thuram et Kylian Mbappé devant.
D'accord.
Donc c'est Dembélé qui fait les frais.
Qui fait les frais de l'opération. Qu'est-ce que vous pensez de cette composition?
Je pense que il a bien fait, enfin Didier Deschamps a bien fait de changer un peu son animation, parce qu'il a vu, pour une fois il s'est remis en question, j'ai envie de dire, et il a vu que ça marchait pas trop pour les matchs précédents, donc du coup je trouve ça bien. Je trouve que c'est une bonne composition. Griezmann sera plus libre parce que derrière, on aura Tchouaméni et Kanté pour assurer un peu le rôle défensif. Donc je trouve ça pas mal. Après, Thuram, j'ai encore des doutes forcément, mais bon, on en parlera peut-être tout à l'heure.
Oui, ces débuts poussifs de l'équipe de France, Stéphane, on y est très très souvent habitué. Là maintenant, voilà, il faut passer un cap,
bah oui,
on l'espère. Hein.
Ouais, les débuts poussifs, et je dirais même la façon de jouer, oui, un petit peu rébarbatif, pas forcément très spectaculaire, on y est habitué, mais ça on a cessé de le répéter, et je crois que tout le temps, c'est que la grande différence aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas ce joueur, on l'a déjà dit dans toutes nos émissions, il n'y a pas ce joueur qui fait un peu la différence au milieu, Antoine Griezmann.
Parce que Griezmann, il est moins bon, il est moins en forme, il est un petit peu plus émoussé physiquement.
Donc on peut penser, mais c'est encore pareil, hein, y a beaucoup d'entraîneurs qui disent les compositions d'équipe, les choix des joueurs, c'est une chose, mais après, c'est surtout la façon dont les joueurs l'animent, hein, parce que et c'est sûr que si Antoine Griezmann est cette espèce d'électron libre entre les deux attaquants et les trois milieux de terrain récupérateurs, c'est vrai que ça va être intéressant, mais vous savez, entre guillemets, tout craindre un peu, quoi. Griezmann qui descend plus dans l'axe aux côtés de Tchouaméni, puis Rabiot dans un couloir, ce qu'on a vu quand même contre la Pologne, je crois. Ouais, c'était la Pologne.
C'est ça.
Non, le match d'avant.
Parce qu'il a remplacé Griezmann pour la Pologne.
Fonctionner sur un couloir. Donc après, tout dépend de la façon dont va être animé, effectivement, pour Thuram, on aurait tendance à vouloir dire dans les anciens schémas, il y avait plein de joueurs, je pense, qu'on aurait préféré voir à sa place. Maintenant, c'est vrai que là, si c'est un 4-4-2, le meilleur joueur,
c'est sûr que c'est Thuram, oui, parce qu'à l'Inter, il joue comme ça, donc
exactement dans le groupe de l'équipe de France, le meilleur joueur c'est Thuram. Ça pourrait éventuellement se jouer avec Colomouani peut-être, mais là je pense que Thuram dans ce schéma, en tout cas par rapport à sa saison et tout, c'est lui qui est c'est idéal. Je pense sur une aile, non, mais comme ça à deux avec Kylian Mbappé, ça peut être intéressant.
Allez, avant de rentrer en détail dans les groupes sur ce match, je vais faire un petit peu le bilan du premier tour. On va réécouter, on l'avait passé dans l'avant-match la semaine dernière, mais on vous l'avait gardé aussi pour mon Paris Sport. Justement, donc les impressions de Bernard Lama et de Steve Marley, rencontrés la semaine dernière lors d'un tournoi sport détente et loisirs à Fontenay-sous-Bois, l'ancien gardien donc de l'équipe de France, champion du monde 98, Bernard Lama. Bon, Bernard Lama, une journée sympa que de ce contact au niveau du foot des amateurs.
Oui, bon, je ne sais pas, c'est pas tellement à moi qu'il faut demander, je pense que c'est surtout aux participants. Mais ce qui est sympa surtout, c'est qu'il fait beau, donc tout le monde est dans la joie, et donc c'est bien, c'est très bien.
Oui, avec un ami commun, l'ami Jean-Pierre Paoli.
Oui, mais JPP, on l'oublie pas, hein, de toutes les façons, c'est une vedette, hein, on le connaît.
Bon Bernard, j'aimerais vous connaître un peu votre sentiment sur le haut de foot actuellement. Comment vous vivez cet Euro et l'équipe de France, ses premières prestations?
Je vais être honnête.
5, 4, 3, 2, 1, terminé.
Donc pour être honnête, j'ai vu très peu de matchs de l'Euro, parce que j'étais en voyage, j'étais en déplacement, donc j'ai pas eu le temps de voir les matchs. J'ai vu que le premier match de l'équipe de France, bon, qui est un match de rentrée, quoi. Après le championnat d'Europe, c'est compliqué, c'est difficile, les équipes sont de très haut niveau, donc voilà, il ne faut pas s'étonner de ce qui se passe. Mais je ne peux pas trop en parler, j'ai pratiquement pas vu de match.
Oui. Surtout qu'on sait que dans ce genre de compétition, le premier tour et après c'est une deuxième compétition qui commence avec les matchs à émission directe.
Oui, bon, ça on connaît le schéma, hein, de toutes les façons. Donc, mais là... On va pas attendre le prochain match, c'est déjà l'élimination directe, quoi. Donc dès le premier tour, on est vraiment dans un tournoi de haut niveau, quoi. Parce que voilà, il y a des équipes qui sont pas encore qualifiées, et y compris l'équipe de France. Donc c'est ce qui est intéressant, et ça va donner de l'intérêt au troisième match, quoi.
Quelles sont vos activités actuellement dans le foot, Bernard?
Moi, dans le foot, non, je suis retiré. J'ai été pendant très longtemps vice-président de la Ligue de football de la Guyane. Donc maintenant, là, j'ai pris un peu de recul et puis je m'occupe un peu de mes affaires.
D'accord, merci beaucoup. Merci. Voilà pour l'interview de Bernard Lama. Et naturellement, la moindre des choses, c'était de s'effacer quand notre ami Jean-Pierre Paoli donc, avait laissé le décompte. Allez, Steve Marley, maintenant. Donc, un des membres du Red Star qui donne aussi son impression sur la prestation de l'équipe de France sur ce premier tour. Je vous rappelle que l'interview, c'était la semaine dernière, juste avant donc, le match nul de l'équipe de France face à la Pologne. Steve, c'était sympa cette journée.
Oui, c'était un peu long pour les anciens. 5 fois 25 minutes, mais non, c'était sympa. C'est toujours agréable de jouer comme ça, avec plaisir, contre d'autres équipes, d'autres sociétés, dans une ambiance estivale déjà, parce que c'est, je crois que le premier jour, il fait
enfin,
beau.
Enfin.
Il fait beau. Et voilà, il y a beaucoup d'enfants, c'est sympa.
Oui. Vous jouez encore souvent au ballon, comme ça?
Alors je suis inscrit moi au Red Star chez les vétérans. Donc ça m'est arrivé de faire quelques entraînements, pas les matchs parce que le dimanche matin c'est assez tôt. Et moi je suis avec le staff, donc on a les week-ends, des fois on a pas mal de choses à faire, mais ça m'arrive de temps en temps dès que j'ai l'occasion.
Alors justement le Red Star, super saison, vous allez monter en Ligue 2.
Ouais, enfin, on avait raté la montée de 2 points l'année dernière. Et là, cette saison, on a pris le taureau par les cornes. Et c'est vrai que dès la trêve, on avait déjà 6-7 points d'avance. Ouais, même plus d'ailleurs. On a eu jusqu'à 12 points d'avance à un moment donné. Donc je dirais qu'on a bien préparé cette montée. Ça nous a permis d'avoir un peu moins de pression sur la fin de saison.
Oui, et puis avec l'ambition d'y rester en Ligue 2. Hein,
cette saison. Oui, d'autant plus que maintenant, on a un stade. Parce qu'on jouera, et là c'est sûr, à Boer. Et on a plein de projets, le centre de formation aussi, on espère dans 2 ans si on se maintient. Notre centre d'entraînement aussi qui est tout neuf. Donc le club avance.
Un petit mot sur l'Euro, comment vous arrivez à suivre les matchs et comment vous le vivez cet Euro?
Bien, c'est vrai que l'Euro c'est quand même une compétition assez difficile, donc il y a son lot de stress, et on l'a vu sur le dernier match face aux Pays-Bas, malheureusement avec la blessure de Kylian Mbappé. Je suis quand même assez confiant pour l'équipe de France. Maintenant, sur le nouveau modèle, il y a même le meilleur troisième qui peut se qualifier. Donc, je suis assez confiant. Je suis assez confiant, même s'il y a quand même de belles équipes, notamment l'Espagne, l'Allemagne. Il va falloir aller les chercher, quoi.
Surtout que les matchs à élimination directe, allez, c'est une autre compétition qui commence.
Oui, c'est une autre compétition. C'est pour ça que moi, je ne suis pas plus inquiet que ça, parce qu'on a de grands joueurs, de grands compétiteurs, et qui savent justement se transcender sur les matchs à élimination directe.
D'accord. Merci, Steve.
Merci à vous.
À très bientôt. Voilà, j'espère que notre ami Steve Marley, ex-Lyonnais, ex-Marseillais, sera un bon prédicateur pour ses pronostics. Stéphane, on va revenir, et puis messieurs, et puis Amadou, et puis donc Alexandre, on va revenir sur donc justement ce groupe qui a vu l'Autriche quand même finir première avec 6 points, devant la France 5 points, 3e les Pays-Bas 4 points, et 4e la Pologne 1 point. On va rappeler que les deux derniers matchs avaient donné un match très spectaculaire avec la victoire de l'Autriche devant les Pays-Bas 3-2. Par contre, France-Pologne, c'était un partout. L'Autriche, ça peut être une des bonnes révélations.
Ça fait un moment que je les voyais un peu monter là depuis même les dernières éditions des Ligues des Nations. Mm-hmm. Ouais, après avec des ils ont pas des grosses individualités, bon il y a quelques joueurs, mais après il y a qui à la barre.
Ouais. Alors du coup,
enfin ils ont quelques joueurs,
c'est une monosature quoi.
Ouais. Mm-hmm.
Et ça vite dire.
Ouais, c'est pas une équipe qui est facile à jouer, hein. Une équipe souvent très athlétique quand même, hein.
Ils lâchent rien,
on l'a vu
derrière. Avant le match contre l'équipe de France, ils étaient invaincus, je crois, depuis 9 matchs au moins.
Oui.
Donc ouais. Bon, après je vends pas quand même cher de leur peau. Bon, je peux, bon, leur prochain match.
Attention, ils jouent la Turquie, hein. C'est demain soir.
Ah ouais.
Donc ils peuvent aller chercher un quart de finale. Hein.
Ouais, c'est vrai que. Après, je vois pas plus, mais bon.
Oui, non, mais bien sûr.
Quel avenir qui me le dira.
Stéphane, c'est vrai que quand on faisait les pronos, on se disait France-Pays-Bas, puis finalement, c'est l'Autriche qui est première.
Ouais, l'Autriche qui est première.
Ouais, mais ça change notre tableau quand même. Hein.
Oui, ça change notre tableau, malheureusement. Bah, c'est vrai que qu'on paye quand même assez cher ce match nul contre la Pologne.
C'est un match qu'on doit gagner, quoi.
La Pologne, c'est surtout celui-là. Le match, je pense qu'on a le manque d'efficacité, parce qu'on n'a pas été non plus nul ni ridicule, mais on est dans une moitié de tableau compliquée, parce que si on gagne là et que le Portugal gagne, ça va être le Portugal, et après ça sera l'Allemagne ou l'Espagne. Donc ça va être très compliqué. Bon, bah certes, il y a l'Angleterre, mais l'Angleterre paraît quand même
alors on va en parler. On en parlait tout à l'heure en off avec Alexandre. Je trouve quand même que dans ce tour, il y a des très bons gardiens, parce qu'on parlait du gardien polonais qui a été très bon, ça a été l'homme du match. On a vu un très bon gardien géorgien, on connaît Donnarumma, Schmeichel. C'est quand même, c'est l'euro des bons gardiens quand même, hein. faut le rendre hommage.
Maignan.
C'est vrai que on parle souvent du manque d'efficacité des attaquants, mais il y a aussi des gardiens de qualité.
Ouais, il y a aussi de très bons, ouais, très très bons gardiens.
On a un petit peu tendance à l'oublier. Hein.
Mais non, bon, maintenant après, je dirais que ils font leur boulot. Il y a aussi bonnes défenses, mais il y a aussi des très bons attaquants.
Oui, mais il n'y a pas de grosses boulettes. Il y en a quelques-uns.
Moi, par exemple, je repense par exemple particulièrement au premier match contre l'Autriche que la France aurait dû gagner. La France aurait dû gagner par au moins deux, trois.
Au moins deux, parce qu'il y a deux actions vendangées. C'est Mbappé.
Le gardien, il y est pour rien, quoi.
Mbappé. Et puis Griezmann qui est un peu trop court à un moment.
Le gardien sur ces actions-là, il n'y est pour rien. Mais c'est vrai qu'il y a quand même de très bons gardiens. C'est vrai qu'il y a très bons gardiens, mais pour l'instant, il y en a. Je ne pense pas peut-être, on va dire que le gardien polonais, il a peut-être contribué.
Ah si, c'était l'homme du match en plus.
Au point, mais c'est presque. C'est un peu normal de se retrouver avec des
Schmeichel a été très bon contre les Allemands, quand même. Bon, on le connaît, Schmeichel. On a vu le gardien géorgien qui a fait quand même un très bon match. C'est vrai qu'il y a des très bons gardiens sur ce taureau. Donnarumma, ça aurait pu être pire pour les Italiens.
Ouais, pour les Italiens.
Même si ça ne change pas grand-chose d'armée. Et puis Mac Maignan, tu le disais aussi. Vous savez combien il y a eu de buts contre son camp marqués dans ce taureau?
C'est
ça. Je suis sûr que tu sais. 7 sur le premier tour.
Ouais, 7 sur le premier tour. Et 8 avec celui d'hier contre l'Espagne.
Il y a la VAR qui a fait beaucoup d'arrêts.
Je trouve qu'il n'y a pas quand même énormément d'erreurs d'arbitrage
dans l'ensemble.
Moi, je trouve que c'est effectivement. Il y a eu un moment hier, là, tout de suite, là, je n'avais pas préparé, donc je ne me rappelle plus exactement le moment. Si, il y a un moment dans le match, je crois que c'est Espagne-Géorgie, il y a un but espagnol qui est l'arbitre de touche, il lève le drapeau. Le but est un but, je crois que c'est un but de
Lamine Yamal contre son camp.
Et le but est refusé pour hors-jeu. Et ben, s'il n'y avait pas la VAR, on serait encore en train, quoi. Bon, là, le score a été large, on serait encore en train d'en parler. Cette erreur d'arbitrage, machin et tout. Alors qu'il y a eu la VAR derrière, même si c'est vrai que ça agace certains. On le voit, ça agace certains. Le hors-jeu, c'est binaire.
On voit le. Oui, on voit par exemple Allemagne-Danemark. À notre époque, Stéphane, sans la VAR, un but qui aurait été accordé. Maintenant, avec la technologie,
Ça n'aurait pas été forcément dramatique que le but soit accordé.
Oui, parce que les Allemands étaient supérieurs quand même.
À deux centimètres près. Mais quelque part, c'est comme ça, la VAR. Puis le hors-jeu, c'est comme ça. On peut dire aujourd'hui, on va laisser une marge de 5 centimètres. On va laisser une marge d'erreur ou de 5 centimètres. Mais c'est après pareil. Il y aura une fois à 1 millimètre près, la marge de 5 cm, elle sera dépassée. Et à 1 mm près, on verra que le but, il est refusé. Donc bon, faut simplement s'en accommoder. C'est vrai que ça peut être agaçant pour certains. Moi, vous savez, on en a parlé, Philippe, avec... je crois que c'était Monsieur Derien
Derien,
ici,
au mois de janvier,
qui avait dit, moi, je trouve que le jeu, c'est aussi fait d'erreurs. Il y a des gens qui pensent ça. Moi, d'un point de vue personnel, en tout cas, je pense exactement le contraire, quoi. Je pense exactement le contraire, quoi.
Oui, ça enlève des injustices. L'interprétation, ça reste quand même à la main de l'arbitre. On le voit sur le pénalty, par exemple. On le voit sur le pénalty.
Ça, c'est d'autres débats. Ça, c'est d'autres débats qui sont effectivement un peu ridicules. Mais là, la VAR, la VAR alliée.
C'était la main contre le Danemark.
Mais après, sinon, le hors-jeu, c'est binaire. Donc, t'es hors-jeu ou t'es en jeu ou t'es hors-jeu. C'est A ou c'est B. Puis voilà, quoi. Après, le reste, effectivement, moi, je pense toujours que ça évite plus d'erreurs
ça enlève des injustices, dirons-nous.
Ça n'en crée, entre guillemets, comme par exemple, effectivement, c'est vrai que Allemagne-Danemark, là, le pénalty qui est sifflé. C'est un peu comme le pénalty qu'il y avait eu contre le PSG, Manchester United au Parc.
Kimpembe, en fin de match, elle part
dans les nuages quasiment, mais avec sa main, il effleure le truc, donc il y a pénalty.
C'est des questions d'interprétation, comme nous disait l'arbitre la semaine dernière, c'est toujours, malgré tout, l'arbitre qui restera, le maître. Vous savez combien il y a eu de buts dans cette phase de poule?
Il y a eu 81 buts, c'est-à-dire
une moyenne de 2,25. C'est quand même largement inférieur à 2021. 94 buts, moyenne de 2,61. Et largement supérieur à 2016, qui n'avait pas été un bel euro. 69 buts, c'est-à-dire 1,91. Donc, et les matchs, tu les trouves comment? Tu me disais que tu trouves la plupart des matchs poussifs. Bon, il y a eu l'Allemagne, il y a eu l'Espagne, et puis la Géorgie quand même qui est la bonne. Non, mais à leur niveau, qui est la bonne, qui a rempli son contrat.
C'est ce qu'on se disait en off. Ouais.
Moi, et pourtant, il y a des buts.
Il y a des buts, c'est un peu contradictoire.
Plus qu'en 2016, moins qu'en 2021.
Dire, à mon sens, la qualité technique a fortement régressé.
Bah, c'est la fin de saison.
Oui, c'est la fin de saison. Il y a beaucoup de matchs. Les joueurs sont, ça se voit qu'ils sont pas en forme physique. Mais devant les matchs, je m'ennuie majoritairement, quoi. L'euro, pour moi, là, c'est pas un
bon. J'aurais dû rester à 16.
Ça, oui, à 16, enfin, je veux dire, les deux premiers qui se qualifient de Chirou, parce que c'est vrai que les meilleurs troisièmes, maintenant, t'as des équipes qui sont assez moyennes, qui peuvent se permettre de se qualifier. Et à mon sens, non, c'est pas un bel euro. Les individualités, elles ont quand même régressé. Mis à part l'Espagne, oui, qui a une très bonne équipe, et moi qui continue de me surprendre.
Ouais.
L'Allemagne, l'Allemagne, on peut en parler un petit peu.
Il va y avoir le choc, on va en parler tout à l'heure.
Il y a toujours des petites équipes qui jouent avec leurs armes, donc la Géorgie qui avait bien joué, la Slovaquie, j'avais bien aimé, mais à part ça, je trouve
que... Oui, ils sont à leur niveau, quoi. 8e, ils sont à leur niveau.
Voilà, je trouve que l'Euro est quand même assez décevant, mais bon, c'est mon
avis. Stéphane, qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Oui, il a pas tant... Moi, je trouve aussi que l'Euro est assez décevant, mais par contre, je suis pas sûr que ça soit justement avec ce règlement des meilleurs 3e.
Si, parce qu'on peut passer à la trappe tout de suite, quoi. 3e, on peut passer à la trappe.
Par exemple, ils ont terminé 3e, je crois, non ?
Oui, oui.
Bah, la Géorgie, je sais pas si en tout cas, ça s'est peut-être joué à la différence.
On va y revenir.
Mais ça fait partie du genre d'équipe qu'on est content de voir. Moi, j'étais content de voir ce match.
Oui, la Géorgie. Après, ça s'arrête en huitième.
Donc, c'est loin d'être le match le plus dégueulasse de l'Euro.
Ah oui, je suis d'accord avec toi. Ça fait parmi les meilleurs matchs du premier tour.
La Slovaquie, par exemple, qui est aussi une équipe, d'ailleurs, on peut quand même aussi ne pas oublier quand on affronte les Belges. On a pas mal, on a beaucoup critiqué les Belges d'avoir perdu contre la Slovaquie, mais quand on voit l'Angleterre hier, ça s'est quand même joué à 20 secondes et à un geste quasiment de génie de la part de Bellingham pour que les Anglais ils restent dans le tournoi. Ouais. Donc finalement, moi je trouve que pour l'instant, en tout cas, les huitièmes ils donnent pas tort au fait qu'il y ait eu les meilleurs troisièmes.
Maintenant, c'est les gros qui sont passés quand même. C'est les gros qui sont passés quand même. Pour l'instant, la logique a été respectée. Ouais, enfin l'Italie depuis quelques années, excepté l'euphorie de l'été 2021, il rate tout. Ils sont pas là en 2018, ils sont pas là en 2022 sur le mondial. Voilà.
Et la Suisse, toujours là, toujours performe quand même.
Deux fois de suite en quart de finale, la Suisse.
L'Italie, c'est une pauvreté depuis
quelques années.
T'as l'impression de regarder, t'as deux joueurs qui jouent
C'est un vide générationnel, quoi.
Barella et Chiesa, peut-être, t'as deux joueurs qui jouent au ballon.
On est loin de l'équipe plutôt flamboyante d'il y a 3 ans. Tiens, alors
moi,
justement.
Je sais pas si elle était flamboyante.
Ah, si, quand même, c'était la meilleure équipe. Elle avait fait du spectacle.
Elle jouait bien, quoi. Enfin, il n'y avait pas vraiment de star.
Non, mais il y avait un collectif. Il y avait un collectif. Il y avait un collectif.
Et ça, comment vous l'analysez, Stéphane? Par rapport à l'Italie, c'est.
L'euphorie d'un été.
Ce qui s'est passé il y a 3 ans, je crois, mais là c'est simplement que c'est comme ça dans le football, mondial. Il y a des moments, il y a des trous générationnels. Ouais. Je pense pas que ça soit de la faute du sélectionneur particulièrement. Après, c'est peut-être à prendre dans la formation. Là, ils sont
non,
à un moment, il n'y a pas de.
L'euphorie d'un été, on a connu ça avec une équipe beaucoup moins spectaculaire. La Grèce en 2004, le Danemark en 92.
Non, c'est pour ça que je dis.
Et puis après,
il y a 3 ans,
c'était un collectif qu'on n'attendait pas.
Mais maintenant, ils ont surtout, je ne sais pas trop comment expliquer ça. Ils doivent faire des analyses de leur côté, peut-être sur la formation et tout.
Alors, revenir,
excuse-moi si je me coupe, mais il y a la malédiction aussi des derniers vainqueurs aussi.
Ah, t'as raison, parce que justement, l'Italie, elle a été minée, comme l'Espagne en 2016 et comme le Portugal en 2021, ils ont été éliminés toutes les trois au stade des 8e de finale.
Le coup du sort.
Voilà.
Tiens, justement, Vanessa, avant d'enchaîner sur les autres groupes, tu as fait une petite interview de supporters français. On entendait les réactions de Bernard Lama et puis de Steve Marley. Tu allais faire une interview, donc tu te convertis au ballon rond, c'est très bien.
C'est ça. Hein, et justement,
même s'il faut
pas
oublier les Jeux Olympiques.
On
passera cette interview d'un supporter.
Voilà, et j'ai beaucoup aimé cette ambiance comme ça, populaire. Et puis surtout, c'était très intéressant parce que c'était vraiment, en plus, un habitant du 13e arrondissement et il a il a dit beaucoup de choses. Il a son fils qui est journaliste, voilà, exactement, qui est journaliste à SoFoot. Et c'est ce qui était intéressant, c'était aussi ce lien, cette transmission avec le foot et ce qui est partagé.
Ouais, bon, donc on écoutera cette interview la semaine prochaine. Voilà. Alors justement, le groupe de la Belgique, on va quand même rappeler les derniers résultats. Slovaquie-Roumanie 1-1, Ukraine-Belgique 0-0. Alors là, c'est un groupe quand même, tout le monde a fini avec le même nombre de points. Ça s'est départagé donc au goal avrache. La Roumanie premier avec donc 4 points, deuxième la Belgique 4 points. Je crois que c'est le nombre de buts marqués qui permet à la Roumanie de finir devant la Belgique. Troisième la Slovaquie 4 points et quatrième donc l'Ukraine 4 points. Mais il y a 0 point au goal avrache pour la Slovaquie et l'Ukraine est à moins 2. Voilà. La Slovaquie donc battue par l'Angleterre hier 2-1 après prolongation. Ils ont failli créer l'exploit.
Ouais, non, finalement, c'est ce que disait Stéphane, c'est que c'était un groupe qui était quand même assez homogène, qui était assez serré. Donc tout le monde a terminé à 4 points. Voilà, donc la Slovaquie qui a fait un match hier assez solide, qui a joué avec ses forces, qui a embêté les Anglais. Les Anglais, bon, on en parlera peut-être.
On va en parler.
C'est une pauvreté, c'est terrible. Et un geste de Bellingham qui sauve l'Angleterre, puis Harry Kane qui marque en prolongation, mais dans l'ensemble.
C'est quand même bizarre cette équipe, on en parle toujours. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on
c'est
dans
l'effet
le
des Anglais. Hein,
on dit toujours l'Angleterre, puis finalement, l'Angleterre, une seule Coupe du Monde. Quoi.
Je pense qu'il y a un effet Première Ligue dedans. Il y a un effet Première Ligue sur le fait qu'on surcote l'équipe d'Angleterre, parce que la Première Ligue, c'est le meilleur championnat. Mais force est de constater qu'il y a des bonnes individualités, mais que dans l'ensemble, collectivement, ça joue pas très bien. Il faudrait peut-être songer à virer Southgate, parce que ça fait quand même un paquet de temps qu'il est là, qu'il ne propose absolument rien.
À une minute près hier, c'était réglé.
Et à l'inverse de Deschamps, c'est que Deschamps gagne. Deschamps gagne, mais Southgate ne gagne pas. Donc, c'est ça qui fait la différence.
Mais ça, je pense que c'est les Anglais, c'est bon, on a beaucoup parlé, on critique souvent les Français. On leur reproche d'être parfois un peu arrogant et tout, mais alors je pense que les Anglais, ils sont, c'est nos maîtres absolus dans l'affaire.
N'oubliez surtout pas ce qui s'est passé en 2022, le match France-Angleterre, toute le chambrage des Anglais et l'arrogance des Anglais avant le match. Ils affichaient des affiches donc dans Paris, Mbappé,
avec Kyle Walker,
sur Kyle Walker, etc. Dans Paris, je me souviens, il y avait des affiches mises par les Anglais.
Il y a une énorme arrogance. Et quand tu parles de syndrome Première Ligue, c'est ça, c'est qu'en fait, on a fait sur le site Le Quotidien du Sport, on a fait un comparatif des équipes les plus chères de cet euro. C'est hallucinant la valeur de l'Angleterre, par exemple, c'est 1,5 milliard, quoi. Ouais. Quand la France est deuxième, mais je crois que la France de mémoire c'est 800 ou 900 millions quand même. Quand tu penses que tes équipes comme
il y a le Portugal,
la Roumanie et tout, c'est 200 millions pour la valeur des joueurs. Donc ils ont quand même les joueurs, ils ont je crois une dizaine de joueurs qui sont estimés à plus de 100 millions d'euros, quoi. Foden, Bellingham, Harry Kane,
Saka,
une dizaine, j'exagère peut-être, mais à plus de 200 millions.
Des Clan Rice qui.
Ouais, et puis après, donc ça, ils arrivent en disant on a le meilleur championnat du monde, on a les meilleurs joueurs du monde, parce qu'aujourd'hui, l'argent, ça donne la valeur du joueur, dans l'esprit de tout le monde, quoi. Le problème, c'est que. Après, est-ce que ils ont Southgate, comme tu disais, moi, je pareil, quand on parlait des favoris, on parlait beaucoup de la France et l'Angleterre, on disait que la grande différence entre les deux, avant le début du tournoi, c'était que la France avait quand même un coach d'une autre dimension, je pense, que l'Angleterre.
Il y a un palmarès aussi, la France a un palmarès.
Exactement, donc c'est vrai qu'il y a ce problème-là, parce que c'est hallucinant, quoi. Tu dis même pas qu'un joueur, quand tu regardes Phil Foden hier, par exemple, tu dis même pas, oh, il est mauvais, il rate tous ses contrôles, machin et tout. Mais t'as l'impression qu'il n'y a pas de solution. Tu te demandes s'ils sont à leur place et tout. Ouais. Alors que c'est compliqué quand même. Quoi. Ouais.
Alors justement, l'Angleterre, Slovénie 0-0, Danemark, Serbie 0-0, c'était les derniers matchs de groupe de l'Angleterre, qui a quand même fini premier avec 5 points, devant le Danemark, deuxième 3 points, troisième la Slovénie 3 points. Là, c'est égalité parfaite. C'est juste au carton jaune que le Danemark termine deuxième et quatrième la Serbie avec 2 points. L'Angleterre qui va jouer la Suisse. Est-ce que la Suisse peut, donc dans le quart de finale, est-ce que la Suisse peut perturber l'Angleterre, la Suisse qu'on parlait, qui est sortie deuxième du groupe de l'Allemagne?
Bien sûr, ça joue très bien, ils sont bons techniquement. Ils ont bien le ballon, ils ont des...
Ils se connaissent très bien aussi.
Quelques joueurs, Il y a quelques joueurs qui vont assez vite. Ouais. Bon, je ne dis pas obligatoirement qu'ils vont les battre, mais moi, personnellement, moi, la Suisse, je les voyais dans les outsiders. Ouais.
La Suisse qui a battu l'Italie, on parlait d'Italie, 2-0 en 8e, victoire logique, il n'y a pas eu de match.
C'est vrai, il n'y a pas eu de match. Avant le match, on voyait l'Italie favori.
Bah oui, parce qu'on a tellement été habitués
dans les pronos, tout ça,
à ce que les Italiens s'en sortent. Puisqu'ils se sont qualifiés, on va rappeler la semaine dernière, on quittait l'émission, et 1-1 pour l'Italie face à la Croatie, sur la fin. À l'italienne, comme on dit, alors qu'ils avaient que l'Espagne avait battu l'Albanie 1-0. Ils avaient quand même fini deuxième de la poule, derrière l'Espagne. L'Espagne 9 points, l'Italie 2e, 4 points. La Croatie éliminée, 3e, 2 points. Et 4e, l'Albanie 1 point. Et puis malheureusement, non. C'est pas l'italienne.
C'était pas un cadeau.
Et plus profond.
C'était pas un cadeau de tomber contre la Suisse.
La Suisse, j'attends de voir.
C'est une équipe difficile à jouer.
De voir quand même.
En quart de finale, ils sont peut-être à leur niveau aussi. Comme il y a trois ans.
Puis pour l'instant, en quart de finale contre l'Angleterre, si quand tu vois comment joue l'Angleterre pour l'instant, tu dis que t'as du solide en face. Mais moi, l'équipe de Slovaquie, elle m'a bien.
Ça fait aussi partie des bonnes résolutions.
Elle m'a vraiment plu.
Alors, on va rappeler que dans le groupe de la Suisse, donc c'est l'Allemagne qui s'est imposée, 7 points devant la Suisse, 5 points. Troisième, l'Hongrie, 3 points. Et 4e, l'Écosse, 1 point. Ça m'emmène justement donc, au groupe de l'Espagne, puisqu'on l'a dit, ils ont donc fini en tête de leur groupe face à l'Italie. C'est le choc, Espagne-Italie.
Espagne-Italie, moi.
C'est le choc, c'est le final avant la lettre.
Espagne-Portugal.
Oui, Espagne-Allemagne.
Espagne-Allemagne, pardon.
J'ai bugué là.
Non, mais
l'Espagne.
Bien sûr que c'est Espagne-Allemagne.
Mais l'Espagne-Allemagne.
Pour l'Italie, comme on en parlait,
C'est
une finale avant la lettre.
C'est un gros. Peut-être pas une finale avant la lettre, mais en tout cas, ça va être un gros choc, un classique européen.
C'est vendredi, 18h, et on aura Allemagne-Suisse après, donc.
Angleterre-Suisse.
On aura Angleterre-Suisse, ensuite. Le même jour.
De bons matchs en perspective.
Ah, franchement.
Ah non, alors attends, je me trompe.
C'est pas la France qui doit jouer le vendredi.
Allemagne-Espagne. Allemagne-Espagne, donc c'est à 18h, c'est vendredi. Et dans la foulée, il y a France, éventuellement, si on passe, contre le Portugal à 21h.
Ça, c'est pas un
Et le lendemain, il y a donc Angleterre-Suisse, effectivement, donc 6 juillet à 18h. Voilà. Donc le Portugal, justement, battu par la Géorgie 2-0, alors que dans le même temps, la Turquie battait la République tchèque 2-1. Le Portugal, ça peut être une des bonnes surprises aussi. On va rappeler qu'ils ont fini quand même premier de la poule, malgré tout, même s'ils ont le même nombre de points que la Turquie, avec 6 points. Devant la Turquie, 2e, 2, 6 points. 3e, la Géorgie, 4 points. Et 4e, donc la République tchèque, 1. Ça peut être une bonne surprise, ou alors,
Ah oui, non, mais le Portugal, c'est.
Il y a quand même beaucoup de déchets aussi dans la finition.
Il y a du déchet, mais moi, ce que je disais.
Non, mais je veux dire, pour gagner le titre à l'arrivée.
Ce que je disais, j'avais dit précédemment dans les émissions précédentes, c'est que le Portugal, selon moi, a une très très bonne équipe, assez homogène, des doublures de postes tous les postes, mais il se tire une balle dans le pied en persistant à mettre Cristiano Ronaldo titulaire. Ouais. Beaucoup de respect pour sa carrière, bien évidemment, mais pour moi, il fausse l'équipe, en fait, tout simplement. Il joue à 10, selon moi, vraiment, il joue à 10.
Bah, c'est clair que encore une fois, dans la présentation des équipes et des forces en présence, effectivement, on pouvait dire qu'il y avait l'Allemagne, le Portugal, la France et l'Angleterre qui étaient les quatre favoris avant le début du tournoi. Depuis, l'Espagne s'est largement invitée. Mais effectivement, la question, en tout cas avant le début du tournoi, la question que moi je me posais, que j'avais aussi posée ici dans l'émission dans le bout du foot, c'était comment le sélectionneur allait gérer Cristiano Ronaldo. Alors pour l'instant, sur les deux premiers matchs, même dans le troisième, quoi, d'un point de vue personnel, je pense qu'il a fait des matchs tout à fait corrects, Cristiano Ronaldo, mais effectivement... pour moi, on commence à voir effectivement poindre quelques interrogations. Je n'ai toujours pas compris au moment où on se parle comment c'est possible que pour le troisième match, il fasse jouer Cristiano Ronaldo et qu'il décide de changer toute son équipe, excepté le gardien. Alors pour ses raisons, il dit par rapport à une défense, tout bon, c'est son choix, un gardien de but. Mais pourquoi le seul des 10 autres joueurs, c'est Cristiano Ronaldo, alors que la réaction logique devrait être l'inverse? C'est quelqu'un qui a 39 ans, même si c'est un athlète hors du commun, un joueur hors du commun, c'est quelqu'un qui a 39 ans, il devrait plutôt en profiter pour se reposer, pour être prêt pour le huitième de finale. Alors ça, effectivement, juste, ça veut dire une chose, comme le disait quand il dit il s'entête à faire jouer Cristiano Ronaldo, ça veut dire une chose, c'est que Cristiano Ronaldo, il a une emprise encore totale sur la sélection. Alors, ce genre de cas, on l'a vu, on le voit, et on l'a vu à la dernière Coupe du Monde avec Lionel Messi, qui fait un peu pareil, quoi, qui est un peu plus jeune que Cristiano Ronaldo.
Mais, ouais, mais qui a marqué en plus.
Voilà.
Et qui a fait marquer.
Et puis il a été le meilleur joueur de la Coupe du Monde.
C'est qu'il y a une différence.
Et il a emmené, voilà, et il a emmené ça. Bon, maintenant, on en est quand même à 3 matchs. Ronaldo, il n'a pas fait des mauvais matchs.
Et mais quand il sort, il a une mauvaise attitude
aussi.
Ouais,
il n'a pas marqué un but. Effectivement, on a un peu l'impression, et des fois, je ne sais pas sur quel match était Malik qui me le faisait remarquer. On a l'impression aussi, des fois, que dans certains de ses choix sur le terrain, notamment celui peut-être de mettre Cancelo souvent presque au milieu de terrain, Cancelo, ah, il joue très haut, on a l'impression qu'il essaye aussi de tout préserver. Alors si, de mettre dans des bonnes conditions Cristiano Ronaldo. Et c'est pour ça que moi je disais, la seule solution, c'est la seule incertitude, c'est de savoir comment il va être géré Cristiano Ronaldo dans le tournoi.
Oui, parce que les Portugais, on les rencontre en quart de finale. Hein. Ils vont jouer donc...
si on gagne.
Ce soir, ils vont jouer la Slovénie.
Et nous,
si on gagne. Donc on les rencontre en quart. Et demain, le dernier quart.
Et aussi, parce qu'ils n'ont pas gagné encore.
Et le dernier quart, donc c'était, on a dit, l'Autriche contre la Turquie qui a battu la République tchèque. C'est un tableau qui est un petit peu plus dégagé de ce côté-là. Hein. Ouais. Voilà. Tiens, tu nous donnes le journal Omnisport et ensuite on finira avec le foot. Hein.
C'est ça, donc on commence ce journal des sports avec l'inévitable Tour de France. C'est bon début pour les Français car Kevin Vauclin s'est imposé hier lors de la deuxième étape. Romain Bardet, qui avait gagné la première étape samedi, a perdu son maillot jaune au profit de Pogacar qui lui-même l'a perdu aujourd'hui.
Oui.
C'est Carapaz qui, bien placé à l'arrivée, récupère le maillot jaune que les autres favoris ont étonnamment pas disputé.
Et c'est une victoire africaine aujourd'hui sur le Tour de France.
Absolument, parce que c'est à Turin que l'étape s'est terminée et c'est Binyam Grimay qui s'est imposé au sprint. Qui s'est imposé au sprint. Donc on poursuit ce journal des sports parce qu'il y avait la finale de Top 14 qui se tenait ce vendredi au stade Vélodrome de Marseille et victoire écrasante, donc là il n'y a pas eu de match
doublé pour Toulouse, hein. Troisième doublé.
Absolument, donc stade toulousain qui a gagné 59-3 contre Bordeaux-Bègles. Donc là, il n'y a vraiment pas eu match. Les Toulousains, donc, qui avaient fini leader de saison régulière, remportent le top 14 sans trop d'accro. Les coéquipiers d'Antoine Dupont peuvent se reposer maintenant après, comme tu l'as dit Philippe, une saison absolument extraordinaire. Champions Cup contre Leinster le 25 mai dernier et championnat ce vendredi contre les Bordeaux.
C'est le troisième doublé, hein, 96, 2021 et 2024.
Absolument. Le tournoi du Grand Chelem de Wimbledon a débuté ce matin. Pour l'instant, pas de grosses surprises puisque les favoris ont tous gagné leur match. Medvedev et Rude pour les hommes et la Française Gracheva qui a remporté son match du jour contre l'Ukrainienne Tsurenko 2-0. Carlos Alcaraz a remporté son match 3-0 contre la Jal. Et le duel de Français entre Gaël Monfils et Manarino s'est soldé par la victoire de Monfils 3-1. Parlons sport mécanique maintenant, Philippe, et le Grand Prix d'Autriche en Formule 1. Mercedes continue sur sa lancée. George Russell termine vainqueur de la course, suivi par Oscar Piastri, Carlos Sainz et son coéquipier Lewis Hamilton. Même s'il n'a terminé que 5e de la course, Max Verstappen est toujours leader au classement des pilotes, tout comme Red Bull qui est devant au classement des constructeurs avec 355 points, suivi par Ferrari 291 et McLaren 268. Hier se déroulait également le Grand Prix des Pays-Bas en moto qui s'est soldé par la victoire de Francesco Bagnaia. Jorge Martin et Enea Bastianini complètent le podium. Le français Fabio Quartararo n'a fini que 12e. Au classement des constructeurs, c'est Ducati qui est toujours leader avec 326 points. Et puis pour finir cette page sport mécanique, un point sur le rallye de Pologne. Kali Rovanpera a remporté la course suivi par Elfyn Evans et Adrien Fourmeau. Malgré sa 4e place, le Belge Thierry Neuville est toujours leader au classement des pilotes.
Un Belge, vous voyez.
Ouais, donc, et Adrien Fourmeau donc, qui a fini 3e. Et puis pour finir ce journal des sports, le championnat de France d'athlétisme qui se déroulait à Angers ce week-end.
Championnat de France à Angers, ouais.
La grosse nouvelle, c'est bien évidemment la non-qualification de Renaud Lavillenie pour les Jeux Olympiques à Paris. Le Français n'est pas parvenu à obtenir le minima malgré un saut à 5,60 m. Et pareil pour Teddy Tamgo qui ne disputera pas la compétition. On rappelle, le Français champion du monde du triple saut en 2013 n'a pas réussi à atteindre le minima nécessaire.
Oui, fin de carrière donc probablement pour Lavillenie. Roumanie, Pays-Bas, ça peut être une bonne surprise des Pays-Bas.
Moi, les Pays-Bas, moi, j'ai vu
ils nous ont déçus quand même.
Ouais, ils nous ont déçus contre l'Autriche. Hein. Contre l'Autriche.
Ouais. Ouais, ils joueront demain, hein, en même temps qu'à 18h, avant donc, le match entre, donc, on a dit, l'Autriche et la Turquie, qui seront les deux derniers huitièmes de finale.
Non, moi, comme j'avais dit avant le match France-Pays-Bas, les Pays-Bas, je pense qu'il ne faut pas les enterrer tout de suite. Je ne sais pas pourquoi, je sens que...
Ah bon?
Ouais. Pourtant, ils sont pas extraordinaires,
moi, j'y crois
pas du tout.
En fait, les deux outsiders, c'est Suisse et Pays-Bas pour moi.
D'accord.
Bah, et les plus hauts, et Allemagne, Portugal en
favori,
en champion.
Ouais. Ouais, et l'Espagne. Même,
l'Espagne, c'est les plus forts là, mais contre l'Allemagne, je sais pas.
L'Espagne, ça commence à durer quand même. Hein, parce
que l'Espagne, oui, ils ont fait la meilleure impression avec l'Allemagne, un degré moins. Oui, oui. On l'a vu, ils ont fini avec 9 points.
Un but encaissé, donc.
Contre son camp.
Ouais, et combien de buts marqués
Hier 4.
Ils ont marqué 3 buts
contre profondeur de banc. Une bonne profondeur de banc, les Espagnols, quand même.
En plus, ouais. Et puis, ils ont un Parisien qui survole les débats, qui va être élu meilleur match, le meilleur joueur de la compétition.
Il joue mieux qu'au PSG, c'est
incroyable.
Donc
il y a un problème dans ce club, hein.
Donaruma.
On l'a vu, Stéphane.
Donnarumma. Quand on regarde Slovaquie, Angleterre, même sa façon de courir, ne serait-ce que sa façon de courir à Skriniar, j'ai trouvé qu'elle était différente quand il a le maillot de la Slovaquie que quand il est avec le Paris Saint-Germain.
Il a trop d'argent dans les poches.
On a l'impression qu'il traîne charru et tout, alors que là, c'était pas du tout ça. Bref, on rigole un peu, mais non, moi, les Pays-Bas, j'y crois pas du tout. Là, je suis un peu dans le même cas que pour l'Angleterre. Je m'interroge beaucoup sur les compétences de l'entraîneur pour faire gagner cette équipe.
Alors, il nous reste 5 petites minutes donc avant de donner l'antenne à Darius et LG pour nous commenter ce match entre la France et la Belgique. Si ça se passe mal, Deschamps peut être mis en cause.
Il doit être mis en cause, surtout.
Pour toi, il doit être mis en cause.
Ça fait 13 ans qu'il est là.
Si ça se passe mal, c'est sûr.
C'est-à-dire que ça ferait 2 éliminations en 8e de finale de l'Euro.
Oui, mais entre-temps, il y a eu quand même la Coupe
du Monde. Oui, il y a une finale.
Donc non, on peut pas dire ça.
Pour toi, c'est
très critique vis-à-vis
pour toi, il paraît qu'il y a eu des petits tiraillements quand même au sein du groupe.
Moi, il doit être mis en cause.
Toi, Stéphane, qui est journaliste comme nous.
Il doit être mis en cause, c'est évident.
Même s'il a un contrat jusqu'en 2026,
il doit être mis en cause, c'est évident. Mais on peut pas dire... Je pense que ça peut pas être un argument de dire ça fera 2 éliminations en 8e de finale de l'Euro.
On est quand même jugé sur les résultats.
Justement. C'est exactement ce que j'allais dire. On est jugé sur les résultats. Ouais. Et le dernier résultat de l'équipe de France est finaliste de la Coupe du Monde, battu au tir au but. Donc tu peux pas zapper ce résultat pour dire il a perdu 2 fois. Au contraire. Mais peut-être que.
Dans le 8e,
c'est surtout que là, on va voir comment ça va se passer. Pour l'instant, on n'a pas très bien joué. Pour l'instant, il fait peut-être des choix un peu contestables.
Mais si on gagne, on oubliera tout. Hein, c'est bien connu.
C'est-à-dire que ça fait partie de quelqu'un. Je pense que lui-même le sait, Deschamps. C'est qu'il est, il est jugé bon, quoi. Il a une bonne note quand il gagne, quoi. Il y en a, ils font un football champagne. Donc même quand ils perdent, on peut éventuellement leur.
Nous, c'était ça dans les années 80, tu te rappelles?
Voilà, exactement. Ah oui. On peut l'accepter maintenant exactement les années 80. Alors vous souvenez peut-être en 82 on gagne 3-1 contre l'Allemagne.
Magique,
en demi-finale de la Coupe du Monde on gagne 3-1 contre l'Allemagne. On est remonté
à 3-3
à 3-3 quoi, à quart de la fin je crois. On est remonté à 3-3 en péno. Ça arriverait aujourd'hui. Ça serait à l'équipe de France par exemple de se faire remonter et de perdre au péno et tout. Ça serait on n'arrêterait pas d'en parler, même si c'était arrivé en finale de la Coupe du Monde, à l'inverse, si c'était nous qui menions 3-1 contre l'Argentine.
Parce que, on se rappelle, ça, les contrats, ça veut rien dire. Roger Lemaire, il avait un contrat, puis il a été, il a été donc remis en cause après l'élimination au premier tour en 2002.
2002.
Raymond Domenech, c'est pareil, il avait un contrat de prolongation, et après le fiasco de 2010, ça a été remis en cause. Donc ça veut rien dire. Mais pour toi aussi, Deschamps, ça peut être remis en cause?
Après, il faudrait commencer peut-être à se poser des questions, mais quand même, la prochaine Coupe du Monde va arriver vite parce que c'est déjà dans 2 ans. Oui. Donc,
il y a Zidane, il attend, il l'a dit.
Oui.
Il
dit que ça l'intéressait. Il peut faire que ça, Zidane. Il parle pas anglais. Il parle qu'espagnol, donc non, mais c'est vrai en plus.
Non, hein,
donc,
italien.
On parle de toujours, Zidane.
On regretterait de pas essayer. Moi, je dis pas forcément que Zidane, ça va être beaucoup mieux et tout, mais on risque de le regretter un petit peu de pas avoir essayé. Si on n'essaye pas, alors si c'est pour gagner, à la limite, on se dit bon, c'est pas grave, on gagne. Donc tant pis, on se passe de football plus pétillant, plus sympathique. Mais là, on peut pas supporter d'avoir un football qui est pas très intéressant et en plus qui perd. Mais bon, on n'en est pas là.
On va gagner. On va gagner. On va se calmer. Surtout que les Belges ont abattu en 2018 en Coupe du Monde 1-0 et puis on les a battus en Ligue des Nations 3-2 aussi. Et on était mené 2-0. Donc
ils sont pas effrayants. Ils sont pas effrayants.
Non. C'est un petit peu pareil. Même malgré donc l'équipe un petit peu donc offensive qui vont donc nous présenter. Ça peut pour finir très vite, ça peut aller au tir au but, à la prolongation.
Bon, ça peut, mais moi je vois beaucoup de buts, moi.
Oui.
Moi
je vois un 3-2, par exemple.
En fait, je vois la Belgique leur faire peur et qu'ils gagnent 3-2. Voilà, 3-2.
3-2,
3-2, 4-2.
Non, je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de buts, puisque eux, comme nous, pour l'instant, on a un problème d'en marquer.
D'accord.
La composition d'équipe que j'ai vue.
Et l'équipe de France a travaillé les tirs au
but. Ça peut être une défense à 3 avec Carrasco et ça peut être très bien quelque chose comme ça. Donc je pense pas que ce soit une très bonne.
Et Castagne à droite.
Alexandre. Très vite, 30 secondes. Toi, tu vois comment
1-0 pour la France. Oui.
Bon, Vanessa, la non spécialiste, des fois, c'est souvent ça. C'est les non spécialistes qui font raison.
Je sais pas, je vais dire 2-1.
2-1 pour l'équipe de France ou pour les Belges?
À voir.
Non.
Pour l'équipe de France.
Voilà. Allez, merci à toutes et à tous. Donc, dans un instant, le commentaire du match avec Abou et Eladji. Merci d'avoir été fidèles pour cette émission bien chargée et un petit peu particulière cet après-midi. On se retrouve dans la bonne configuration la semaine prochaine, 19h, 20h30. Vous la retrouvez en podcast. Merci à Jason. On finit avec Mike Brandt. Feeling. Belle soirée à toutes et à tous et allez les Bleus.
Bonne soirée.
Fais ça pour moi, dis-lui que les jours sans elle me semblent moins longs. Dis-lui quitte à mentir, dis-lui que je réalise avait raison. Dis-lui qu'amour dont j'aime vivre, que je ne suis plus seul déjà, qu'elle n'est plus rien pour moi. J'ai bien fini, oui, d'être malheureux. Dis-lui que j'aime une autre fille. Dis-lui tout ce que tu voudras, mais il faut qu'elle te croie.
Say it.